Merci d'écouter RFI. Il est 20h en temps universel, 21h à Paris et Strasbourg.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Anne Corpé. Bonsoir Anne.
Bonsoir Clémentine.
Face au Parlement européen, le président français Emmanuel Macron a plaidé aujourd'hui pour une Europe puissante, mais certains élus doutent de sa capacité d'action. Nous entendrons le reportage de notre envoyé spécial à Strasbourg.
Le chef de la diplomatie palestinienne appelle à mettre fin à l'impunité dont jouit Israël. Il s'est exprimé aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il dénonce la destruction d'une maison palestinienne à Jérusalem.
Dans l'actualité également, le recul de la liberté de la presse en Inde, le gouvernement de New Delhi a définitivement fermé le club de la presse du Cachemire, correspondance à suivre.
Enfin, dans les îles Tonga, les besoins sont toujours aussi immenses après une éruption volcanique et un tsunami dévastateur. Nous entendrons une responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le journal en français facile.
Emmanuel Macron passe à l'offensive pour une Europe puissance d'avenir.
Oui, le président français a appelé aujourd'hui les Européens à l'audace pour que l'Union européenne s'affirme comme une puissance d'avenir et souveraine afin, dit-il, de ne pas dépendre des autres puissances mondiales. Emmanuel Macron s'est exprimé devant le Parlement européen alors que la France vient de reprendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Le dirigeant a ensuite longuement échangé avec les eurodéputés, des échanges parfois houleux, c'est-à-dire agités, avec les élus français à 3 mois de la présidentielle française. À Strasbourg, Anthony Lattier.
Il est le seul candidat à la présidentielle à être aussi député européen. L'occasion est trop belle pour l'écologiste Yannick Jadot d'installer un face-à-face avec le président Macron.
Notre Europe ne sera jamais la vôtre. Celle du renoncement climatique, celle du glyphosate, celle de la circulation sans entrave, des biens, des services et de la finance, mais des murs, des barbelés, des miradors et les humiliations pour les femmes et les hommes.
S'ensuit un échange musclé entre le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, et le chef de l'État.
Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière pour la France, mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique.
Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer.
Bis repetita avec l'intervention de l'élue insoumise Manon Aubry.
L'histoire jugera l'occasion manquée de votre présidence française de l'Union européenne, sacrifiée sur l'autel de votre ambition personnelle.
Vous avez dit, je vous cite, « La présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral ». Et je pense que vous avez tout à fait raison. Donc, à plusieurs ici, vous avez eu raison de ne pas le faire.
3h30 d'échange, en partie parasité donc par la campagne électorale française. À la sortie, les eurodéputés non français expriment leur agacement. Le chef de l'État, lui, s'éclipse, refusant de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. Anthony Lattier, Strasbourg, RFI.
Toujours en France, le parquet antiterroriste ouvre une enquête sur l'assassinat d'une touriste française au Maroc.
L'ouverture de cette enquête fait suite au meurtre d'une touriste française samedi dernier à Tiznit, dans le sud du Maroc. Cette femme, âgée de 79 ans, a été tuée à l'arme blanche sur un marché de la ville. Un suspect, âgé de 31 ans, a été arrêté le jour même à Agadir, à quelques kilomètres seulement du lieu du crime.
Le journal en français facile.
Le chef de la diplomatie palestinienne dénonce devant l'ONU la destruction d'une maison palestinienne à Jérusalem.
Oui, Riyad al-Malki a pris la parole aujourd'hui devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voici ce qu'il a déclaré. Israël continue de mener une guerre sans merci au peuple palestinien. Il accuse l'État hébreu d'avoir déraciné une famille, y compris leurs enfants. Il faut mettre fin à l'impunité dont jouit Israël, a-t-il conclu.
Les faits se sont produits ce matin à l'aube, à Jérusalem, dans le quartier ultra-sensible de Sheikh Jarrah.
Oui, la maison de la famille Saliyé a été rasée dans la foulée. Les forces de l'ordre israéliennes avaient déjà tenté en début de semaine de démolir l'habitation. Mais face à la mobilisation de militants anti-occupation et de diplomates internationaux, elles avaient renoncé. Finalement, le sursis a été de courte durée. Sami Bourlifa.
Les policiers israéliens ont fait irruption au cœur de la nuit. Le quartier de Sheikh Jarrah, situé à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée par l'État hébreu, est rapidement bouclé. Selon la police israélienne, durant cette opération nocturne, 18 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, les membres de la famille Salhiyé. Lundi, lors de la première tentative d'expulsion, Mahmoud Salhiyé et ses enfants s'étaient réfugiés sur le toit de leur maison. Armés d'une bonbonne de gaz et d'un bidon d'essence, ils avaient menacé de tout faire exploser s'ils étaient forcés à quitter les lieux. La famille Salhiyé était sous le coup d'un mandat d'expulsion depuis 2017. Le terrain sur lequel se trouvait leur maison, désormais réduite en ruine, a été alloué pour la construction d'une école. À Sheikh Jarrah, des militants des droits de l'homme palestiniens et israéliens expliquent que cet établissement pourrait être construit ailleurs en ville. Selon eux, il s'agit d'un simple prétexte à un déplacement forcé des populations palestiniennes. Ils qualifient cet acte de crime de guerre. En mai dernier, ce sont justement des tentatives d'expulsion de Palestiniens de ce quartier qui ont notamment contribué à déclencher le conflit à Gaza. Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Direction l'Inde, à présent, où le gouvernement a ordonné la fermeture permanente du club de la presse du Cachemire dans le nord du pays.
Cette décision restreint, limite encore plus la liberté d'expression dans une région déjà hautement militarisée, c'est-à-dire une région où l'armée est très présente. Il y a 2 ans, les autorités indiennes ont abrogé, ont mis fin à l'autonomie de cette région disputée. Et depuis, les forces de sécurité ont augmenté leur pression sur les médias. Elles ont notamment arrêté plusieurs journalistes. La correspondance de Sébastien Farcy.
Fin décembre, le gouvernement régional renouvelle l'enregistrement administratif du club de la presse du Cachemire et ses journalistes prévoient donc de nouvelles élections pour renouveler leur comité de direction. Mais vendredi dernier, les autorités suspendent subitement cette autorisation et le lendemain, plusieurs personnes, dont des journalistes accompagnés de policiers, prennent possession par la force des locaux. Le gouvernement prend alors ce prétexte pour dissoudre immédiatement le club de la presse et fermer ce lieu définitivement pour des raisons de sécurité, dit-il. Ishfaq Tantre est le secrétaire général élu du club.
Au Cachemire, il est devenu courant que des journalistes soient arrêtés ou menacés, et notre club servait à les défendre et à demander aux autorités de les relâcher. C'est ainsi que tous les clubs de la presse opèrent en Inde et dans le monde. Nous demandons juste le respect de la Constitution pour laisser les journalistes travailler librement. Notre rôle est encore plus important aujourd'hui, et c'est malheureux que nous ne puissions plus même faire cela.
Ces derniers mois, 3 journalistes du Cachemire ont été arrêtés pour terrorisme ou atteinte à la sécurité de l'État pour leurs écrits ou de simples messages sur les réseaux sociaux. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Les premiers avions transportant une aide d'urgence pour les îles Tonga vont pouvoir atterrir.
La principale piste d'atterrissage de ces îles du Pacifique a été dégagée 4 jours après une éruption volcanique marine suivie d'un tsunami dévastateur. La directrice de la région Pacifique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Seignana Rocco-Vukago, a pu communiquer pour la première fois aujourd'hui avec ses équipes sur place par téléphone satellite pour discuter des priorités.
Le principal problème, c'est l'approvisionnement de l'eau. C'est la grande priorité aujourd'hui. C'est ce que le gouvernement et les organisations d'aide internationale tentent d'acheminer à tout prix. Il faut aussi aider les gens à nettoyer leurs maisons. Nous espérons pouvoir mobiliser davantage d'aide dans les jours à venir, tout en gardant en tête les quarantaines liées au Covid. Et il faut construire les abris sur l'île. Nous avons les premières nécessités, des couvertures, des kits pour ces abris. Car il y a beaucoup de cendres volcaniques, les sources d'eau ont été inondées par l'eau de mer à cause du tsunami. Il faudra surveiller l'augmentation des maladies liées à la qualité de l'eau aussi. Et enfin, notre travail va aussi se concentrer sur le soutien psychologique, car les peurs d'une nouvelle éruption seront dans tous les esprits.
Des propos recueillis par Cléa Broderst. Très belle soirée à tous sur RFI.
Demain sur RFI.